Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
La COP 26 s'ouvre ce 1er novembre à Glasgow, en Écosse. 187 nations vont discuter pendant 12 jours de comment combattre les réchauffements climatiques. Cette occasion pour la RDC, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, de réclamer le décaissement effectif des fonds pour la protection des forêts du bassin du Congo, promesse qui n'a jamais été réalisée depuis la COP 21. Et puis, banc syndical et gouvernement toujours en négociation à Mbuelalo, Diakissantou, au Congo central. Les violons semblent ne pas s'accorder. Lever de la grève ou pas, l'intersyndicale, la synergie des syndicats des enseignants ne parle pas le même langage. Enfin, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri, est notre invité dans cette édition du journal. Avec lui, nous évoquerons la visite hier dimanche à Bounia du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Bala Moussessé. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La 26e conférence annuelle de l'Organisation des Nations Unies sur les changements climatiques se tient du 1er au 12 novembre dans la ville de Glasgow en Écosse. La conférence des parties, ou COP en abrégé, est un sommet annuel qui réunit 197 nations pour discuter du changement climatique et de la manière dont les pays et nous tous prévoient de les combattre. Tati Mapoko.
Chaque année, les participants de la COP se réunissent pour recevoir et évaluer les mesures à mettre en place dans la lutte contre les réchauffements planétaires. De nombreux signes actuels démontrent que le changement climatique est en marche. La température globale a d'ailleurs déjà augmenté de 1 degré Celsius en comparaison avec l'ère pré-industrielle. Afin d'en limiter les conséquences, le réchauffement de la planète doit absolument être contenu sous la barre des 2 degrés Celsius d'ici 2100. Selon les derniers rapports du programme environnemental des Nations Unies, si chaque pays signataire respectait leurs engagements actuels, le réchauffement planétaire moyen se situerait davantage entre 2,7 degrés Celsius et 3,2 degrés Celsius. Face à cette urgence climatique, l'objectif principal de cette COP est donc de convaincre les États à revoir drastiquement leurs engagements, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La RDC, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après le Brésil, sera hautement représenté à ce forum de Glasgow avec la présence du président de la République, des membres du gouvernement et de quelques acteurs de la société civile œuvrant dans le secteur de la protection de l'environnement.
Alors, à propos de la COP 26, vous l'avez entendu, la RDC abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après le Brésil. Cela fait que le pays soit un réservoir de carbone et une réserve de biodiversité d'importance mondiale. Les autorités congolaises ainsi que la société civile œuvrant dans les secteurs de l'environnement et développement durable en RDC disent espérer participer cette fois à une COP pragmatique. Quelles sont les attentes de la RDC à l'égard de la COP 26? Élément de réponse, toujours avec vous, Tati Mapoko.
Bien avant l'ouverture de la COP 26, certains acteurs congolais du secteur de l'environnement ont fait savoir leurs attentes. Pour Jeannette Bosingisi, chef des services de l'Agence congolaise de l'environnement ACE en sigle, la RDC joue un rôle très important dans la protection de l'écologie à l'échelle mondiale et il faut tenir compte de cette dimension dans les différentes discussions qui auront lieu à Glasgow.
Quand vous regardez tout ce que nous avons, nos forêts, l'eau, tout, la biodiversité, quand vous garder les écosystèmes. Donc, nous répondons à tout pour donner la solution à ce qu'on appelle changement climatique.
La COP 26 est une occasion pour la RDC de réclamer les décaissements effectifs des fonds pour la protection des forêts du bassin du Congo, promesse qui n'a jamais été réalisée depuis la COP 21, ajoute Ginka Njemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus.
Cette fois-ci, nous allons là-bas pour demander aux pays voici non seulement de tenir les promesses, mais d'être plus concret.
Pour sa part, le coordonnateur de la dynamique des peuples autochtones au DGPA, Patrick Saïdi, estime que les efforts consentis par les peuples autochtones dans le cadre de la protection des écosystèmes forestiers n'ont jamais été récompensés à leur juste valeur.
Et puis on parle justice dans cette édition du journal. L'avis du ministère public est attendu cette semaine sur le procès qui oppose le bureau de l'Assemblée nationale à la société du groupe Agimex devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Un litige oppose les deux parties autour de la résiliation du contrat qui les liait concernant l'entretien du Palais du Peuple et l'Assemblée nationale. Une décision judiciaire avait enjoint à l'Assemblée nationale de payer à la dite société plus de 4 millions de dollars américains au titre d'indemnisation que l'Assemblée attaque en opposition devant la Cour. Elle estime que c'est mal calculé et sans concertation. La cause vient d'être plaidée. Les avocats de l'Assemblée nationale reprochent au juge du premier degré de n'avoir pas tenu compte de l'aspect conciliation des parties. Maître Jean-Jacques Tiamala.
Pour qu'on donne une injonction à payer, il faut que la personne qui demande puisse avoir des preuves incontestables de sa créance. Et la société Agimex, sans quelconque preuve de la créance, qui initialement a été évaluée par elle-même à 104 000 dollars, va obtenir une injonction à payer contre l'Assemblée nationale pour un montant de 4 400 000 quelque chose. Et en droit, on a démontré que l'action a été recevable. En tout point, il n'y avait aucun souci quant à la recevabilité de cette action. Au fond, nous avions démontré que, bon, conformément à l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution et procédures simplifiées de recouvrement, la loi demande en cette matière que la procédure se fasse en deux temps. D'abord en phase de conciliation, puis en phase contentieuse. Nous reprochons au jugement que nous attaquons de n'avoir pas tenu compte de la phase de conciliation.
Pour les avocats de la société du groupe Agimex, l'Assemblée nationale est débitrice et doit lui payer son argent. L'organisation de la conciliation n'est pas de la compétence du juge d'appel, plaide Maître Kamoura Moulumba. On écoute.
L'Assemblée nationale n'a jamais présenté sur la table des négociations au groupe Agimex une enveloppe quelconque pour dire, bon voilà, ma proposition que je vous fais, vous réclamez une somme de 4 millions de dollars et plus, et moi je vous présente ceci comme proposition pour que nous entamions les négociations. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a jamais fait ça. Mais curieusement, elle vient reprocher au premier juge et demande à la cour d'appel d'organiser cette conciliation, ce qui n'est pas de la compétence du juge d'appel. Donc, les litiges à ce jour voudraient que les groupes Agimex obtiennent paiement par l'Assemblée nationale de sa créance qui n'est pas contestable.
L'Assemblée nationale donc se retrouve être une débitrice de mauvaise foi.
C'est un dossier réalisé par Jeff Ngoy. Poursuite des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndicat de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les violons ne s'accordent pas entre les délégations syndicales qui participent à ces assises. Si l'intersyndical a levé la grève, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC parle d'une impasse et demande au gouvernement de trouver des options fondamentales par rapport aux revendications des enseignants. Paul Matendo.
Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, a appelé tous les enseignants à reprendre les activités ce lundi 1er novembre.
Selon le principe universel, quand l'employeur vous tend la main sur la table des négociations, il faudra que vous puissiez cesser les faits. Et pour que nous puissions bien négocier avec le gouvernement, que les enseignants reprennent les cours dès demain, lundi, nous ne voulons pas continuer toujours avec la grève pendant que nous sommes en train de négocier.
Ce n'est pas le point de vue de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Jean Bosco Pouna, son secrétaire général, s'explique.
Il faut dire que nous sommes dans une impasse parce que d'une part, le gouvernement fait suspendre la grève par ceux qui ne l'ont pas décrétée. Et d'autre part, on négocie les retours de la prise en charge des enseignants par les parents. Les conseils que nous donnons au gouvernement, c'est d'accélérer les travaux pour que les options fondamentales soient prises afin de pouvoir lier le gouvernement à ses différents engagements et permettre la décrispation totale sur le terrain.
Les sources proches du ministère de l'EPST affirment que ces assises vont se clôturer dans 2 semaines.
Et puis, 25 ans après son assassinat à Bukavu au sud Kivu, les effets positifs du combat de Mgr Christophe Muzihirwa Mwenengabo, notamment en rapport avec la concertisation sur la défense de l'intégrité territoriale, la démocratie et la résistance contre l'agression de la RDC, nécessitent aujourd'hui une continuité. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche à Kinshasa le père provincial de la Compagnie des Jésus en Afrique centrale. C'était à la clôture, sous une note satisfaisante, selon lui, du symposium de 4 jours organisé dans le cadre de l'année jubilaire de 25 ans de l'assassinat de ce prélat catholique. Le révérend père Rigobert Kiungu a déclaré que la démarche aujourd'hui de la Compagnie des Jésus et de l'archidiocèse de Bukavu, suffisamment avancée selon lui, est orientée sur la béatification de ces prélats catholiques. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous pouvons retenir que Muzirwa est tout un symbole pour notre pays, la République démocratique du Congo. Il a mené le bon combat de la foi, de la démocratie, de la libération du Congo et le combat de la résistance pour que le Congo ne soit pas balkanisé.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le combat de Muzirwa a des effets positifs?
Oui, je crois que un grand effet positif, c'est la conscientisation, parce que Monseigneur Muzirwa nous a alerté sur les dangers de la balkanisation, de l'exploitation de l'Est du Congo et même de tout le Congo. Et nous l'appelons prophète, veilleur, guetteur, etc. Et j'espère que cela peut faire tache d'huile pour tous les Congolais afin que nous continuions à défendre notre pays. Pour nous, jésuites, avec l'église de Bukavu, notre revendication est sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Nous travaillons à la cause de sa béatification.
À l'issue de ce symposium organisé par la Compagnie des Jésus en Afrique centrale, en collaboration avec la fraternité Christophe Muzirwa, le diplôme de docteur honoris causa décerné dans le cadre de l'année jubilaire à Monseigneur Muzirwa par l'Université catholique de Bukavu et l'Université Loyola du Congo a été remis symboliquement hier aux représentants de l'archevêché de Bukavu. Autre nouvelle, 4 motards sont signalés enlevés dans le secteur de Bendera, à 125 km au nord de Kalemi. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Des témoins sur place parlent des combattants toits être à l'origine de l'enlèvement des victimes. Depuis plusieurs mois, les habitants observent les changements de stratégie dans le mode opératoire de la Milistoa sur l'axe routier. Ils organisent des incursions dans des villages, intentent des embuscades aux usagers sur l'axe routier, enlèvent des personnes et exigent le paiement de la rançon pour obtenir la libération des victimes. La société civile locale appelle les services de sécurité de mettre un terme à l'activisme des groupes armés. Le point avec François-Xavier Mibé.
Le dernier cas d'enlèvement signalé dans la zone vient de survenir samedi dernier autour de 15h30 locale. Deux transporteurs à moto ont été enlevés et conduits en brousse dans les secteurs du village Temalobé. Un habitant témoigne dans la zone. Deux motards viennent aujourd'hui d'être enlevés et conduits en brousse. Les ravisseurs exigent 500 000 francs congolais pour leur libération. Ce sont des miliciens toits que les victimes accusent. Nous ne savons pas ce que pense l'État pour assurer la protection des habitants. Et la situation s'empire dans notre secteur de Bendera. Cet enlèvement a été précédé par un autre survenu non loin du village de Fanta à 4 km de Mapanda. Deux autres motards sont tombés pendant les heures matinales dans une embuscade et puis enlevés pour une destination inconnue. Hier encore, deux autres motards sont tombés en embuscade au village de Fanta. Il faut 200 000 francs congolais pour les libérer. Depuis le mois d'octobre finissant, la société civile locale avance les chiffres d'une dizaine, le nombre de personnes enlevées, torturées et puis relâchées après paiement de la rançon. La même source précise que les femmes enlevées subissent parfois des abus sexuels faute de paiement de la rançon. Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le projet Gouvernance financière dans son logiciel de perception automatisée des recettes de l'État a été lancé le week-end à Kindu par le comité technique de suivi et évaluation des réformes du ministère national des Finances. Selon le coordonnateur chef de projet, ce logiciel vise la transparence, la traçabilité et la fiabilité des informations sur les recettes et la trésorerie de l'État. Didier Bazangika explique au micro de Florence Kizalonga.
Ce projet, c'est un projet du ministère des Finances qui a été mis en œuvre avec la Banque Centrale du Congo. Donc le logiciel Isisregi est développé par les informaticiens de la Banque Centrale du Congo qui, en collaboration avec nous, nous continuons à déployer au fur et à mesure dans différentes provinces. Isisregi suit la procédure de l'encaissement jusqu'à la comptabilisation. Actuellement, nous sommes au Maniema, dans la ville de Kindu, pour former à peu près 180 utilisateurs parmi les 3000 qui sont déjà formés pour qu'à partir du 1er janvier 2022, que l'ensemble de la province de Maniema puisse basculer à la procédure dématérialisée avec Isisregi. C'est qu'on demande à la population, aux contribuables, faire confiance au pouvoir central, de faire confiance au pouvoir provincial, payer leurs impôts. Ces impôts permettent de mettre en œuvre le programme du gouvernement provincial et celui du pouvoir central, et surtout de se rassurer qu'avec Isisregi, leurs paiements seront suivis de bout en bout. D'ailleurs, demain ou après-demain, probablement l'année prochaine d'ailleurs, nous allons ouvrir Isisregi aux contribuables. C'est-à-dire qu'ils auront la possibilité de se connecter eux-mêmes et aller vérifier ce qu'ils ont réellement payé, si ça a été encaissé, comptabilisé ou non.
Actualité internationale.
En Centrafrique, alors que le comité préparatoire dévoilait il y a quelques jours les grandes lignes du dialogue républicain promis par le président Faustin Archange Touadéra d'ici à la fin de l'année, les principaux représentants de l'opposition ont annoncé samedi 30 octobre le retrait du dit comité. La démarche vise à protester contre une circulaire du président de l'Assemblée nationale qui relance la procédure de levée de l'immunité parlementaire des trois députés centrafricains figures de l'opposition politique. Et puis, le sommet du G20 à Rome a montré la puissance de l'Amérique quand elle s'engage et travaille avec nos alliés partenaires sur les problèmes, a déclaré le président des États-Unis lors d'une conférence de presse dimanche soir. Rien ne remplace les négociations en face à face pour la coopération mondiale, a-t-il ajouté. À ce titre, Joe Biden s'est dit déçu que la Russie et la Chine ne se soient pas montrés pour l'événement alors qu'il était question du climat. Il regrette que les deux puissances ne se soient fondamentalement pas manifestées en termes d'engagement face au changement climatique lors de ce sommet.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le lieutenant Jules Ngongo. Il revient sur la visite ce dimanche à Bounia du chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala Moussessé, qui arrive dans cette province sous l'état de siège dans un contexte particulier où les groupes armés multiplient les attaques contre les positions de l'armée. Que peut-on retenir de cette mission? Le porte-parole Jules Ngongo répond aux questions de Martial Kizabiamongo. Suivez.
Lieutenant Jules Ngongo, bonjour.
Bonjour.
À quoi consiste cette mission chef d'état-major général de FARDC à l'Ituri?
Si le chef d'état-major général arrive ici, c'est dans le cadre de inspection des troupes et une mission purement de commandement. Parce qu'il est le chef des armées en RDC et je pense sa présence à côté de ses hommes va valganiser les opérations militaires que nous sommes en train de mener, mais aussi hausser la morale des troupes en cette période où nous sommes engagés dans tous les fronts pour détruire la menace, mais surtout protéger, sécuriser nos populations qui sont en détresse. Voilà la raison pour laquelle le numéro 1 de l'armée est ici à Ituri, justement dans une mission d'inspection et de commandement.
Les chefs d'état-major de FARDC arrivent à Ituri dans un contexte très particulier avec des attaques multiples de la CODECO, opposition des FARDC dans les territoires de Djougou. Du côté du sud, les ADEF et les Maïmaï sont très actifs ces derniers temps. Est-ce que cette visite pourra faire changer les choses?
Dans le cadre de sa mission en tant que chef d'état-major général, il doit être où il montre cette manière de il doit à tout prix être à côté des hommes en ligne de front. Lui, il arrive dans le ligne de front pour motiver ces hommes afin d'en finir avec tous ces groupes armés qui inquiètent notre région, qui sont auteurs de plusieurs atrocités. Parce que le chef d'état-major général, en tant que numéro 1 de l'armée, doit suivre de tout près la mission qui lui a été confiée par le commandant suprême, celle de restaurer l'autorité de l'État à cette période d'état de siège où ces généraux sont en œuvre pour accomplir cette mission et surtout l'exécuter sans faille. Donc, il doit suivre de tout près les opérations militaires. Voilà la raison pour laquelle il est ici.
Un message à la population qui attend beaucoup d'espoir du côté de FARDC qui sont déployés à Ituri à cette période de l'état de siège.
C'est soutenir son armée. C'est vraiment bannir tout esprit de vengeance. C'est soutenir son armée, surtout c'est collaborer avec les forces armées. Dans une approche globale, la population doit comprendre que sans cette population, les forces armées, c'est comme s'ils vont combattre celles. Mais nous ne voulons pas que nous combattons celles parce que c'est la victoire. La victoire que nous cherchons, c'est la victoire de la République et de la population.
Nous sommes en état de siège. La population est impatiente d'aspirer à la paix. Est-ce que cette fois-ci, cette visite va apporter de l'espoir à la population pour une imposition de la paix durable à Ituri?
En cette période de l'état de siège, il n'y a pas autre chose que nous pouvons demander à la population, c'est avoir confiance à son armée. Vous voyez comment les gouvernements congolais se domènent, mettent de moyens pour arriver au bout et mettre tout ce hors la loi, en fait de le mettre hors d'état de nuire.
Alors, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la population pour que vos opérations militaires réussissent?
En cette période, la population, nous devons être dire comme faire derrière l'administration militaire pour chasser, détruire cette menace qui a longtemps duré. Et le temps qui nous reste, je pense que vous avez vu ici en Ituri, il y a des avancées très significatives, mais l'objectif ultime pour nous les forces armées, c'est restaurer l'autorité de l'État. Et là, la population doit en être sûre parce qu'on ne combat jamais la République.
Maintenant, Jules Ngongo, merci.
C'est moi.
Jules Ngongo, porte-parole de FRDC en Ituri. Il s'entretenait avec Marcel Kiza Biamungu depuis l'aéroport de Murungu à Bunia. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre particulière attention.